Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission où l'on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 10 où nous parlerons des actualités du 19 janvier au 19 février 2016, date d'enregistrement de ce numéro. Je suis Axel, votre hôte durant cette émission, et j'ai le plaisir de recevoir mes invités habituels durant celle-ci, en commençant par Eddy. Salut.
Salut.
Ça va ?
Ça va.
Ok, et Morgane aussi, salut.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Très bien, et toi ?
Ben oui, ça va très bien. On fait enfin un Parlons Cinéma, on l'avait pas fait le mois dernier parce que problème d'emploi du temps, tout ça, voilà.
Mais, on a déjà eu du mal à caser le podcast Movies Nerd. Donc...
Exactement. Et vous avez pu entendre la qualité de ce podcast.
Oui, c'est vrai que ouais, je l'ai réécouté il y a des moments, je disais, oh là.
Ouais, voilà.
On a eu du mal.
On est d'accord là-dessus.
Ouais, on a eu beaucoup de mal.
Le top du top, mais bon, voilà. C'était un peu on recommençait après un petit moment de. Un
ouais,
petit,
on faisait une espèce de Movies Nerd reboot, et donc du coup. Voilà.
On a mis du temps à se rebooter, mais sinon, on va commencer rapidement parce qu'on a un programme quand même assez chargé. En commençant tout de suite par la bande-annonce de Suicide Squad qui a été dévoilée. Ce sera sûrement une des dernières, puisque. Enfin, non, c'est sûrement l'avant-dernière parce qu'il y aura une dernière avant qu'il sorte, mais le film sortira le 3 août prochain. On a pu voir un peu plus quand même dans ce teaser avec. Beaucoup de on a déjà la chanson culte Bohemian Rhapsody qui rajoute une certaine ambiance au trailer. Qu'est-ce que vous avez pensé du trailer de Suicide Squad?
Moi j'ai bien aimé. Bah comment en fait le premier teaser hein.
Ouais.
C'est un projet qui me botte bien. Bon, je suis un petit peu le seul dans mon entourage que ça botte par contre, mais tant pis. Mais non. Ça promet. Enfin voilà, après j'espère que le film ira au bout de ses promesses.
Ouais. Oui, de toute façon, on va dire quand.
Contrairement à certains films.
Oui, voilà, mais j'y
récemment.
Pensais, mais bon, je l'ai pas vu de toute façon encore.
Oui, mais de toute façon, je vous promets qu'on en parlera en long, en large et en travers dans le prochain Movies Nerd.
Oui.
Moi, le projet me botte, mais après, j'essaye de retenir mes attentes parce que, au vu justement de ce dernier film, donc on parle de Deadpool, hein, pour ceux qui ne savent pas, je préfère garder mes attentes et voir ce que ça va donner. Le trailer me botte bien, j'ai bien aimé l'ajout de la musique, le montage est vraiment super pour la bande-annonce. Moi j'ai pris mon pied en la regardant et je suis plutôt impatient de le voir, mais après je garde mes réserves. Voilà. Morgane ?
Moi c'est pareil, j'attends le film plus pour les personnages que pour la soi-disant violence du film. Même par rapport à Deadpool, je partage la même détestation que toi pour le film. Non, mais je spoil
ouais.
mon avis. Hein.
Ouais, mais, de toute façon,
mais disons que j'évite maintenant d'attendre dans un film de super-héros une violence un peu extrême. Là, j'attends vraiment un peu de folie et quelque chose qui sorte un peu des sentiers battus. Déjà, on aura le Batman dont on va parler là, Batman vs Superman, ouais. On va en parler plus tard, qui déjà va peut-être amorcer quelque chose d'un peu plus noir, quelque chose que j'avais pas trop vu
dans Man of Steel. Ouais.
Dans Man of Steel et même dans les DC Comics, même bon, je prends les Batman à part parce que bon, pour moi,
oui,
c'est, voilà.
C'était pas vraiment ça, c'était pas le début de l'univers en fait.
Voilà, c'est ça. Mais après, Suicide Squad en matière de personnages d'univers, ça peut vraiment être sympa. Et puis la bande annonce, je la trouve hyper efficace.
Ouais.
Maintenant, faut pas qu'ils en fassent. Ça y est, j'espère que c'est la bande annonce finale, qu'ils vont pas en faire une autre.
Mais s'ils
en
font une.
Tu dis ça, mais ils en font toujours une avant
mais
la
ouais,
sortie. Hein,
mais ouais, mais c'est chiant parce que là, c'est bon.
C'est limite, on n'aura pas deux encore.
Ouais, des spots TV, des machins, ouais, des, ouais. Mais bon, j'attends le film, ça a l'air vraiment, vraiment cool, quoi.
Ok. Donc, on passe maintenant à la deuxième news qui concerne le film Astérix 2, donc la suite du film d'animation d'Alexandre Astier, qui a été lancé par le groupe Micros Images, qui s'était occupé de l'animation du premier Astérix, qui était réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier.
Le domaine des dieux. Hein.
Le domaine des dieux.
Vous
avez dit premier Astérix, c'est pas.
Oui, ouais, voilà, c'est un peu.
Moi, je pense à celui de
l'horrible. Le premier Astérix, c'est en 3D, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc dans celui-ci, normalement, ça devrait être Alexandre Astier qui écrit le scénario et qui devrait être original, donc pas basé sur aucun album préexistant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je l'ai vu récemment, le premier, et le Domaine des Dieux, voilà, et j'ai beaucoup aimé, à ma surprise, et donc je suis très impatient de découvrir ce nouveau film, et surtout que c'est Alexandre Astier qui va écrire complètement le scénario, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, moi personnellement, bon, je suis très content qu'il écrive parce que c'est un bon auteur. C'est un très bon auteur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu son spectacle, l'Exoconférence.
Non, toujours pas, mais j'ai vraiment envie de le voir.
Ouais,
qui est vraiment excellent. Moi, je l'ai vu récemment et il est disponible en DVD de toute façon maintenant.
D'accord, ok.
Et franchement, c'est super bien foutu, c'est hyper intéressant et c'est très décalé, mais en même temps, ça prend plein de trucs. Et ouais. Il base vraiment son spectacle là-dessus, donc ça fonctionne bien. Donc dans un sens, je suis content qu'il écrive, parce que oui, c'est un bon auteur. Après, ça me fait quand même un peu peur qu'il adapte pas, parce que ça casserait un peu la tradition en fait du SFX. Alors c'est très ça fait très de droite ce que je suis en train de dire, ça fait très conservateur, mais c'est que
touchez pas à Astérix.
Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça, je suis pas contre qu'on, parce qu'il y a, y a eu des,
de toute façon il y a des nouveaux albums qui sortent,
oui.
Pas tous les ans, parce
alors
que
qui sont pas forcément tous bien, hein, mais
Bon, je les ai pas lus, donc
Il y a aussi eu des adaptations qui mélangeaient plusieurs albums. Celui qui avait été fait, Astérix et les Vikings, ça mélange chez les Normands et je sais plus quoi.
Ouais.
Donc bon, c'est pas un problème, mais après, je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment une utilité à inventer quelque chose d'original, alors que il y a déjà suffisamment.
L'univers
est
déjà riche.
Oui, c'est ça. Donc après peut-être qu'il s'en sortira très bien. Puis je pense que de toute façon, le premier avait tellement de respect pour le support originel que du coup, on peut quand même supposer que le deuxième sera dans la même lignée, tout en proposant quelque chose de neuf pour le coup.
Après ça le retarde, on en avait parlé, il voulait faire sa trilogie Kaamelott, ça le retarde toujours plus dans sa trilogie Kaamelott, donc voilà. Morgane,
moi je suis content que justement il n'adapte pas, parce que je trouvais que la limite quand même du Domaine des Dieux, qui est un film excellent par ailleurs, la limite c'était quand même, on sentait quand même le côté décalque, il y avait la patte Astier, et effectivement le film, à l'époque, quand il est sorti, je m'attendais à un Kaamelott version Astérix, très clairement. En fait, c'était pas du tout ça. Et d'ailleurs, les critiques avaient un peu mis en garde en disant « Ne vous attendez pas du Kaamelott, on reste quand même dans Astérix assez traditionnel. »
Oui, mais dans un sens, c'est bien quand même. Parce que...
C'est bien, mais j'avais envie... Moi, j'ai envie vraiment que Astier se lâche. Et je pense qu'en n'adaptant pas, en ayant la liberté totale sur son scénario, du coup, on peut voir jusqu'où il peut aller. Parce que Kaamelott, Kaamelott, c'est pareil, c'est inspiré. Enfin, c'est juste...
Les
légendes.
Oui, mais sauf que dans Kaamelott, finalement, la légende arthurienne, elle est quand même bien présente et il va jusqu'au bout.
Il a la base, c'est ce que je dis, mais il va pas se coller.
Il n'y a pas que la base, il va vraiment dans les détails et tout. C'est ça qui fait que Kaamelott, finalement, c'est vraiment. C'est très riche parce qu'il n'utilise pas juste la base de la légende du roi Arthur pour faire de l'humour, c'est limite une adaptation. Alors au départ c'était par petits sketchs de 3 minutes, et puis après les deux derniers livres c'est plus long, c'est des épisodes d'une demi-heure, mais il allait vraiment au bout, donc c'est pour ça que finalement, est-ce que c'est quand même une bonne idée qu'il n'adapte pas à Astérix, quoi. Je veux dire, à la limite s'il veut se lâcher, mais il faut peut-être qu'il le fasse sur une création complètement originale qui prend pas pied dans un univers déjà présent, ouais. Quoi.
Il veut peut-être laisser sa patte dans l'univers, je sais pas, tu vois.
Oui, je pense qu'il est fan d'Astérix et qu'il a envie de s'amuser avec ces personnages-là qu'il adore.
Mais de toute façon, les personnages ont du potentiel pour. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, Astérix, tu peux partir dans plein de directions différentes, mais.
Oui, Chabat il a fait un truc avec sa sauce en respectant effectivement
l'album Cléopâtre, quoi. Donc il y a quand même tu vois le
mais
film,
je suis curieux.
Tu lis, enfin moi le Cléopâtre, j'ai lu l'album, j'ai vu le film d'animation et j'ai vu le film. Et dans les trois cas, c'est vrai que il y a des divergences par rapport à l'album, que ça soit le dessin animé ou le film, mais tu reviens tout le temps finalement dans ce qu'il fait la trame de cet album là Alors, comme quoi on peut vraiment mettre sa patte tout en restant fidèle au truc, quoi. Après, c'est pas une mauvaise chose qu'il fasse un truc original, mais est-ce que prendre pied dans un univers comme ça, c'est vraiment la meilleure des solutions pour justement faire quelque chose d'ultra original et qui se démarquerait, quoi.
Bah en tout cas, c'est une idée hyper risquée. Je trouve ça bien qu'un réalisateur ose se mouiller. Ouais. Et à l'heure où tout n'est que adaptation, machin, fidélité de machin.
Et puis l'animation française se porte pas l'animation... si bien que ça en plus. Hein. C'est pas.
Hormis celui-là.
Voilà, c'est ça.
Bah, donc, ça fait du bien de voir un peu
d'animation française.
Je suis retombé sur Minuscule il y a pas longtemps. Ouais. Sur Minuscule, je suis retombé dessus il y a pas longtemps. Bon, le film m'ennuie un peu, mais en tout cas en termes d'animation, il y a vraiment quelque chose. Mmh. Et j'ai écouté d'ailleurs une interview du réalisateur qui disait s'être inspiré de Mad Max. Il avait plein de références. Et effectivement, j'ai revu le film avec un peu tout ça. Donc bon, après effectivement Minuscule, c'était particulier, c'était beau, mais c'est vrai que l'animation française, je pense qu'Astier peut en faire quelque chose d'hyper grand public déjà, et en plus de pas faire un truc
après par contre si ça peut ouvrir beaucoup de portes à l'animation française, là oui, d'accord, banco.
Ah oui, je pense que oui. Puis Astier,
mais déjà le domaine des dieux montrait ça quand même, montrait qu'on était capable aussi.
Astier est un super auteur de toute façon, et je pense qu'il peut faire un truc génial. Non, je suis vraiment,
c'est même plus qu'un auteur, c'est un artisan, quoi. Il fait tout, il est vraiment
intelligent, quoi. Ouais. Il a l'humour,
ce qu'il prend vraiment, il arrive vraiment à prendre du recul sur tout ce qu'il fait.
Ouais,
quitte à justement dans Kaamelott, c'est vrai que les deux derniers livres, il y a un virage complètement différent où on limite dans le, il y a de l'humour, mais c'est un humour encore plus noir, et on est presque dans une trame dramatique. Et c'est vrai que quand t'as vu les quatre premiers livres de Kaamelott et que tu vois les deux derniers, au départ, ça déstabilise un peu, en fait. Mais c'est que le mec est tellement impliqué dans ce qu'il fait, et il prend tellement de recul aussi par rapport à ce qu'il fait, qu'il prend des risques, et c'est bien.
Ok, d'accord. On est quand même impatients de voir au moins ce que ça va donner.
Ouais, je suis curieux.
Voilà.
Très curieux.
On va passer maintenant à de l'animation un peu américaine. Donc la nouvelle bande-annonce de l'Âge de Glace 5. Donc Sid, Manny et Diego sont de retour pour une nouvelle aventure. Dans l'Âge de Glace, les lois de l'univers qui sortira le 13 juillet. Donc moi, personnellement, l'Âge de Glace, j'ai vu que le 1 et le 2. J'ai pas suivi. Donc, est-ce que quelqu'un a vu les quatre?
Moi, j'ai les quatre en Blu-ray.
J'avais bien aimé les deux premiers, en tout cas.
Ah, moi, j'adore le premier, que je trouve vraiment très bien.
Oui, le premier.
J'ai un peu plus de mal avec le deuxième. Par contre, j'aime bien le 3, bizarrement, qui part pourtant dans un délire un peu bizarre.
Le 5 a l'air d'être parti dans un délire vraiment très très bizarre.
Pour moi, clairement, ça va être c'est bien parti pour être l'épisode vraiment de trop. Déjà, le 4, ça avait un peu ce goût-là, malgré quelques trucs qui fonctionnaient bien. Mais ça, en fait, c'est un peu, j'ai un peu l'impression que ça va être la même chose, quoi. Il va y avoir 2-3 gags qui vont bien fonctionner. Puis
les gags qui fonctionnent, de toute façon, c'est que avec Scratch, j'ai l'impression. C'est pas vraiment avec
dans le 4, il y avait.
Dans la bande-annonce.
Dans la bande-annonce, en tout cas, c'est le seul qui m'a fait rigoler.
De toute façon, Scratch, c'est devenu la mascotte. Voilà. Enfin, moi, toute l'ouverture du premier film, j'étais mort de rire quand j'étais petit. Mm-hmm. Et là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Mm-hmm. Il y a très longtemps que je ne l'avais pas vu, en plus.
Moi aussi, ça fait très longtemps.
Et c'est vrai que c'est vraiment... je trouve vachement intéressant, le premier. Et puis, c'est pas juste... Le premier, c'est pas juste de l'humour pour de l'humour. Il y a un vrai fond derrière. Enfin, il y a un gros message sur le pardon que tu perçois pas forcément au départ. Et puis finalement, le film en parle bien, il aborde bien les choses, je trouve. Et après, ça se perd un peu. Finalement, ce que je regrette un peu, c'est que les suites sont devenues plus Afrique qu'autre chose, quoi.
Ouais. Et donc celle-là, ils devront empêcher un astéroïde qui se dirige tout droit vers la planète. Voilà. L'introduction de la bande-annonce me paraît complètement dingue pour quelque chose qui est censé être un truc.
Ouais, le côté espace et tout, moi, me gêne.
Voilà, c'est vraiment. Enfin, il y a vraiment un souci. On a vraiment l'impression qu'ils font le film juste pour avoir un peu plus d'argent, quoi.
Vraiment été chercher le dernier prétexte possible. Quoi.
Exactement.
Ça fait un peu ça.
Exactement. Donc voilà. Morgan, tu as quelque chose à rajouter?
Bah, moi, j'ai vu les 4. Je déteste les 4. J'irai pas voir le 5. J'arrête.
D'accord.
J'arrête les frais avec
même pas le premier.
Je déteste. Même pas. Ça me fait pas rire. Mais vraiment, les personnages, je les trouve pas attachants. J'y arrive pas. Le premier, c'est le moins pire, on va dire. Mais franchement, non, c'est pas mon truc du tout. tout, et le 5, j'irai pas le voir. Déjà, le 3ème, c'était les dinosaures. Le 4, c'était la fonte des glaces. Là, c'est la loi des... Attends, ils vont aller jusqu'où après?
Bah là, ils sont allés dans l'espace, je pense que...
Mais oui, non, mais après, ils vont... Ouais. Non, mais après, ils vont... Faut qu'ils arrêtent. Je vois, dans le film de trop, oui, c'est ça. De toute façon, pour moi, ça fait depuis le 2ème, c'est le film de trop. Le premier suffisait à lui-même, de toute façon, même si j'aime pas trop. Mais je comprends qu'on puisse l'aimer. Mais honnêtement...
D'accord.
Oh non, 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 j'irai pas. Non, ça, pour le coup, je n'irai pas. Malgré ma carte de passe, non, rien. Pas
d'accord, ok.
Il y a Conjuring 2 qui sort le 13. Donc, tu vas voir ça.
Et pourtant, t'es allé voir les mignons. Hein,
Oui, non, mais parce que j'ai vu moi, Moche et Méchant.
Oui, oui, je sais.
Et parce que je me disais pourquoi. Oh, ça va.
Allez. Non, mais je rigole. Hein, je rigole. Non, mais c'est juste pour dire à quel point tu vois, t'es prêt à baisser tes standards. Pour...
Oui, c'est vrai. Non, mais celui-là, non. Parce que, bah, attends, ça fait quand même le 5ème film. Là, au bout d'un moment, je suis maso. Si je l'aime pas les 4, je vais pas aimer le 5. Enfin, à moins que, mais franchement.
Bah, t'as été voir tous les Twilight. Hein.
Ouais, mais j'en ai. Non, j'avais pas vu le 3.
Ah, oui.
Ni le 2.
Ah oui,
j'ai vu le 1, le 4 et le 4 partie 2. J'ai pas vu.
Ouais,
ouais, allez savoir pourquoi.
Bon, on va passer ensuite à une autre news qui concerne un nouveau Zorro, un nouveau film Zorro, qui serait scénarisé par le scénariste de Gravity, donc Jonas Cuaron.
Cuaron, quelle horreur. Gravity.
Ah oui, oui, d'accord. Oui,
parce que... Ironique.
Voilà, j'avais du mal à comprendre l'ironie dans ton. Je me disais bon, pourtant le projet part pas si bien que ça, parce qu'on en avait parlé, on en avait déjà entendu parler cet été. Il était, on était censé avoir un projet de reboot de Zorro qui devait se passer dans un univers post-apocalyptique, donc voilà.
Zorro Fury Road.
Parlant de films de trop, voilà.
Mais pourquoi pas, hein. Franchement, pourquoi pas.
Je sais pas. Moi, le seul film de Zorro que j'ai bien aimé, c'est celui des années 90 avec Antonio Banderas. Mais après, la suite est dégueulasse.
Moi, je me rappelle même
j'ai vu que la suite. Moi.
Ouais. Voilà.
Je chante régulièrement le générique de la série.
Voilà. Est-ce que on passe à autre chose ou ça vous intéresse?
Ah non, mais quand,
moi,
enfin,
oui.
Pas du tout. Hein.
Ouais.
Ah non.
Moi, si l'univers apocalyptique, apocalypse, ça m'intéresse. Puis bon, Jonas Cuaron, quoi. Pourquoi pas? Parce que c'est un grand scénariste en
l'année. Ouais, mais justement, il a autre chose à foutre qu'aller faire ça.
Bah, il fera Gravity 2 plus tard.
Ouais.
Non, oui, non, mais effectivement, mais après une question
y
d'acteur.
Il y
aurait
besoin d'une suite à Gravity, je...
Non.
Non, franchement,
non, mais non,
le
mais
film
non,
se
non,
suffit.
Non, non, c'est pour rire. Non, non, mais c'est pour dire, effectivement, il peut faire autre chose. Mais pourquoi pas. Le côté apocalypse, ça m'intrigue pas mal. J'attends d'en savoir plus, des affiches, des synopsis.
Pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Hein, mais enfin, ouais. On sait qui va écrire le scénario. On sait, non, ça devrait être un reboot post-apocalyptique, mais c'est qu'une rumeur, ça. En tout cas. Mais voilà, on en parlera plus en détail quand on aura plus d'informations.
Ouais.
On passe rapidement à la bande-annonce de Cloverfield 2. Donc, ça, c'est une news que Morgane a rajoutée dans le programme. Donc, je te laisse commencer.
Oui, alors que Cloverfield 2, le projet a été tenu, et ça c'est dingue, parce que Cloverfield 2, personne ne savait que le film allait sortir et allait se faire surtout. Le projet a été tenu secret, et c'est pour ça que j'attends le film. Je suis épaté de savoir comment, surtout un projet comme Cloverfield 2, après le tapage qu'il y a eu avec le premier, qui est pour moi une réussite absolue.
J'ai pas vu le premier, donc.
Le premier pour moi est une merveille d'immersion et de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Eddie? Qui a-t-il? Vas-y, t'aimes pas Cloverfield?
Ah non, j'aime pas Cloverfield, non.
Ah ouais?
Ok.
J'aime pas, je l'ai vu une fois et ça me... Bon, j'ai pas compris le truc. J'ai pas compris l'engouement, en fait.
Ouais.
Je trouve ça assez con, mais bon, bref.
Bah je trouve que c'est une grande immersion. Après, le
du coup, j'ai même pas vu la bande-annonce du 2, donc...
Bah, il faut
elle
le voir,
est surprenante.
Elle est surprenante parce que en plus, le film, Cloverfield 2 à la base, l'histoire qu'on voit, le coup, parce que c'est avec, alors je précise, c'est avec Marie-Elisabeth Winstead et John Goodman, et à la base, le film avait été vendu comme s'intitulant The Cellar. Et c'était un film qui, voilà, c'était un film de genre avec, et au final, c'était un titre, un faux titre, alors que derrière, c'était Cloverfield 2 qui se tramait. Donc
et toute la bande-annonce est basée sur ça, en fait. Parce
toute la bande-annonce, il n'y a aucune similitude avec Cloverfield nulle part. Hein.
Jusqu'à la fin. À la fin, il y a juste la fin où elle ouvre la porte, où on voit
elle
un monde un peu enfin un monde complètement détruit. Et,
ouais.
Et en fait...
Mais c'est ça, parce qu'à la fin, du premier, les monstres sont partout de toute façon. Hein.
Ok. mais
il me semble.
Non, je sais
pas,
hein, j'ai pas
t'as
vu.
T'as spoilé.
Ah, tu l'as pas vu. Oh,
bah,
moi, je pensais que tu l'avais vu.
Il y a qu'un monstre.
Non, je l'ai pas vu.
Mais
c'est pas si grave. Mais de toute façon, enfin, j'essaierai de le voir parce que, en tout cas, la bande-annonce m'a beaucoup intrigué parce que, enfin, j'avais envie de voir le film juste basé sur la bande-annonce. Après,
The Cellar, ouais, tu voulais voir The Cellar.
Voilà,
c'est
ça.
Ouais.
Parce que ça avait l'air d'être un film assez, enfin, assez claustrophobique dans un huis clos de genre, un film d'horreur ou assez psychologique. Et là, après, elle ouvre la porte, le monde est un peu détruit. Je sais pas ce qui se passe. Et voilà, la bande-annonce m'a intrigué. Après, je sais pas si je verrai le film. Mais
et rappelons le vrai titre, enfin le titre, alors le vrai titre, c'est oui. Là, mais le titre vraiment Cloverfield 2, ça ne s'appelle pas Cloverfield, oui. Ça s'appelle 10 Cloverfield Lane. Donc
ouais.
Vraiment, il y a un côté un petit peu, je me demande où est-ce que ça va se situer par rapport au premier, donc je suis hyper curieux de voir. Bon, après, J.J. Abrams, ça, je crois qu'il n'est pas à la
réalisation. Il sera sûrement à la production.
Il n'était pas à la réalisation, de toute façon.
Non, il était à la production.
Mais
et
non, c'était
le...
Matt Reeves.
Matt Reeves qui était à la réal et Gigi qui produisait, et le scénariste c'est Damien Chazelle, un des co-scénaristes. Donc franchement, ça
pourquoi
peut l'idée que le film a été tenu secret alors que la moindre info fuite sur Twitter et tout ça, là ils ont tenu ça bouclé, enfin c'est hallucinant, et pour ça je veux voir le film.
Bon, peut-être que je reverrai le premier et je verrai le deuxième, mais c'est pas
après le premier très bien. Je pense que le 2 sera vraiment différent. Déjà, je suis même pas
sûr. Ça sera toujours en caméra embarquée ou pas ?
Justement, j'allais le dire et je crois pas. Donc,
bah,
déjà.
Au vu de la bande-annonce, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais
non,
après,
non.
Après la bande-annonce.
Parce que c'est ce qui faisait la particularité du premier. Donc...
D'accord.
Oui, c'était un côté un peu. Mais là, non, je crois. Justement, il y a le comment dire, l'ambiance Cloverfield, mais on va pas retrouver, je pense. Ça va
pas être
un Cloverfield.
Dans le premier,
2 avec...
c'est ce qui participait à l'immersion aussi, hein. Après, parce que sinon, ça restait quand même un banal truc de...
Bah, c'était un Godzilla...
C'est ça.
Un Godzilla... Oui, non, mais ouais, c'est vrai. Mais le 2, je me demande... Puis l'idée, voilà, ils vivent sous la Terre, puis finalement... Enfin, je sais pas, je trouve ça dingue, quoi.
Ouais.
Non, franchement, ça peut donner... même si ça s'était pas appelé Cloverfield 2, j'avais envie de voir le film.
Oui, en tout cas, moi, j'avais envie de voir le film juste pour la bande-annonce, hein, parce que...
Voilà.
J'étais assez surpris en la voyant au cinéma.
Ouais.
Enfin bon, c'était le seul moment, le seul bon moment de cette séance. Vous devinerez le film que j'ai vu après.
ouais, j'allais le dire.
Exactement. Bon, on va passer ensuite à un film qui ne m'intéresse vraiment pas. À Saw 8, donc intitulé Legacy, qui est annoncé.
Legacy. C'est génial.
Voilà, pour 2017, c'est bon, c'est en cours. Donc, moi, j'aime pas Saw. C'est peut-être pas une grande surprise, mais.
C'est pas une surprise.
et du coup, je sais pas si quelqu'un est intéressé par le film ou pas. C'était juste pour.
Non.
Okay. Moi, j'adore Saw premier du nom.
Et pourtant, Morgan me fait chier depuis longtemps pour que je voie le premier.
Le premier. Tu as vu Seven, Eddie ?
Oui.
Et c'est passé comment, Seven ?
J'ai trouvé ça excellent.
Regarde
David Fincher.
Parce que oui, justement parce que James Wan a. Ce n'est pas. Alors, Saw 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une boucherie visuelle. Le 2 se regarde un petit peu. Mais à partir du 3, c'est une boucherie, c'est du torture porn gratuit, sans aucun intérêt, complètement moche et juste abrutissant.
Mmh.
C'est vrai. Le premier, c'est un vrai, c'est un huis clos avec une ambiance, avec vraiment une enquête jusqu'à un twist de fin absolument hallucinant. C'est pas du tout, ça joue pas vraiment sur le sang et compagnie. Il y a un peu de sang, effectivement, tu vois des tripes de temps en temps, mais franchement, ça va. Honnêtement, le premier, regarde-le parce que pour l'ambiance et si t'aimes James Wan, je pense que le premier, tu vas.
Après, j'aime bien James Wan quand il essaie de me faire peur, hein, sinon.
Ah bah, t'as pas vu Dead Sentence avec Kevin Bacon ?
Non.
Ah bah, regarde-le, c'est un super film. Et
pour Saw 8, ouais.
Voilà. Pour Saw 8, le problème, c'est que Saw 8 arrive après un Saw qui s'appelait Saw 3D, enfin Saw 7,
ouais.
Le chapitre final. Donc, il faut
c'est pour ça qu'il l'avait appelé Saw 3D.
Ouais,
voilà,
ouais.
Parce que.
Oui, parce que sinon, c'est. Ça, voilà.
Saw 7, ouais. Déjà Saw 6. Bon.
Ouais, déjà. Ouais. Oh, putain.
Ouais. Et surtout, le problème, c'est que Saw 7, c'était le chapitre de fin. Donc, il n'y a pas de suite possible.
Normalement, c'est ce que j'ai lu dans l'article, c'est qu'il devrait. Jigsaw, donc c'est le méchant, apparemment, qui devrait passer.
Mais il est mort depuis le 3.
Ah d'accord. Et,
okay. Donc le grand méchant de Saw est mort depuis le 3, mais ils arrivent, enfin, ils te trouvent des prétextes pour relancer le truc. Mm-hmm. Mais c'est hallucinant, ça en est nanardesque tellement c'est
bah, ouais, ouais.
Tellement, mais voilà. Bah, et le problème. Alors après oui, effectivement, peut-être qu'ils vont le faire revenir parce que il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Effectivement, par rapport à la fin du 7e, qui est non seulement prévisible parce qu'on toute personne qui ont vu Saw les premiers s'attendait au grand dénouement de fin. On savait vraiment où le... Et en fait, au final, ils nous ont pas surpris du tout. Donc du coup, on a peut-être besoin d'explications à ce niveau-là, sans spoiler. Mais franchement, mais pourquoi ? Mais ça n'a aucun intérêt. C'est Saw, c'est une saga qui avait un potentiel. Ça a commencé par un chef-d'œuvre et ça a terminé vers la pire des bouses. Et d'ailleurs, le réalisateur du 3, 4, 5 s'appelle Monsieur Guzman. Donc, bon, moment, c'était écrit Darren Lynn Guzman.
À un moment, il y a trop de coïncidences. Hein,
voilà, au bout d'un moment.
C'est pas possible, sinon.
Ah, ouais, non, mais. Pas. Aucun intérêt.
C'est une petite anecdote.
Oui, non, mais.
De toute façon, les anecdotes de Morgan sont toujours très constructives. Hein.
Voilà. Non mais exactement. Non, Saw 8, pas d'intérêt franchement, oui. Le faites pas les gars, okay, voilà. Les gars si. Surtout pour un film qui s'appelle Saw, les gars si, enfin je trouve ça génial.
Ah oui, en plus.
Exactement. Ouais, donc voilà. On va passer ensuite au film de Steven Spielberg, donc Ready Player One, qui est repoussé finalement à 2018. Il devait sortir normalement en mi-décembre 2017, mais bon. On sait que maintenant Star Wars épisode 8 sortira à cette époque là, donc il a été repoussé, tout comme Avatar 2 qui a été repoussé je sais plus quand.
Non, mais Avatar 2 il va jamais arriver,
il va jamais sortir, ouais.
Il va jamais se faire en fait.
Le problème d'Avatar 2 c'est qu'ils vont, avoir fini la direction artistique et le film va déjà être dépassé visuellement quand il va sortir.
Exactement.
À force de le repousser, c'est un peu ce qu'il lui prônait.
Non, mais c'est, ça se trouve, Cameron, il écrit pas du tout, il fait semblant. Et il nous dit, bah attendez, j'ai encore des trucs à faire. C'est vrai ce qu'il dit. Hein. Mm. C'est vrai, hein, le film il va sortir, ça va être. Alors que, bon, le premier, quand même, ça a été.
Bah, déjà, le premier vieillit bien, hein, on peut pas vraiment dire que ça vieillisse mal. Ah. Mais il commence déjà à.
Par rapport au Tintin de Spielberg, peut-être que Tintin peut-être plus évolué quand même.
Donc okay. Ready Player One, justement, en parlant de Spielberg, ce sera le prochain après le Bon Gros Géant qui sortira cet été. Le synopsis est assez intéressant, on en avait déjà parlé, c'était par rapport à un monde virtuel dont un adolescent nommé Wade Watts se connectera dans un univers numérique, etc. Ça a l'air assez intéressant.
Ça a failli nous faire du franglais là.
Ouais, j'ai failli. exactement. Voilà, donc le film sortira le 30 mars 2018. Finalement, c'était juste pour dire que à chaque fois que Star Wars est placé à un endroit, tout le monde essaie de l'éviter.
C'est ça.
C'est judicieux, j'ai envie de dire. Voilà, je pense que si vous avez quelque chose à rajouter, sinon on peut passer à la prochaine news.
Ouais, non.
Voilà.
Bah okay. Non, mais il faut qu'il sorte, quoi.
Voilà. Ouais, voilà. Il sortira le 30 mars 2018.
Dommage. Voilà. Dommage.
Voilà, donc on va passer ensuite à la bande-annonce de Batman vs Superman. Donc ce sera la bande-annonce finale, puisque le film sortira quand même dans le 23 mars 2016.
Ouais, j'imaginais plus tard, moi. Donc,
il était sorti à peu près à la même période, je crois, Man of Steel.
Est sorti en juin.
En juin était sorti. Ah oui.
Ouais.
Coup, quoi, je voyais plus.
Oui. Donc le 23 mars 2016 sort Batman vs Superman. Je vais d'abord vous laisser dire ce que vous avez pensé de la bande-annonce.
Mais c'est surtout que oui. Ah oui. Pardon. j'ai eu un bug. Mais non, parce que en gros, le studio a peur que le film soit trop complexe, quoi.
Oui, aussi. Mais
tu veux qu'on parle de la bande-annonce avant ?
Ouais, on parle de la bande-annonce.
Et la bande-annonce est très bien. Et comme la deuxième, en fait. Et qu'autant la première donnait pas forcément envie, mais la deuxième était très bien, et celle-ci aussi.
Ouais.
Elles sont peut-être un chouïa trop longues, mais...
Je la trouve un peu trop... on nous montre trop de scènes d'action.
Trop de trucs, ouais.
On nous montre trop de scènes d'action, et... j'ai peur que le film soit très, très...
Mais c'est peut-être justement parce que je pense que la Warner sait que Man of Steel a pas fait l'unanimité, donc je pense qu'ils ont quand même envie de réattirer du monde en disant regardez ce qu'on vous promet. Donc ouais. Peut-être aussi, c'est marketing aussi, puis ça marche sur moi d'ailleurs. Mm-hmm. Ça me donne mais vraiment envie, hein, j'ai vraiment hâte.
Par contre, Il y a certains effets visuels de la bande-annonce qui, à un mois de la sortie, ça fait un peu peur. Par exemple, quand Wonder Woman saute d'un endroit à un autre, ça fait très numérique.
De toute façon, Wonder Woman, c'est toujours pas possible.
Ouais.
Moi, le costume, je pense que je m'y ferai jamais.
Oh, le costume, ça va encore.
Franchement, je vois Xena, la guerrière. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais j'arrive pas à m'enlever cette image-là de la tête, quoi. Ça fait costume de film d'époque, ça fait pas costume de super-héroïne. C'est moins kitsch que le truc avec que le costume sur le drapeau des États-Unis, mais
ouais, bah, c'est sûr que enfin après on n'y a pas tellement le choix avec Wonder Woman pour faire un costume qui soit crédible et pas risible. Il n'y a pas beaucoup d'options, on va dire, comme pour Superman et pour Batman d'ailleurs, enfin pour tous les super-héros.
Je rebondis sur le numérique, après c'est Snyder, et je trouve que Snyder, techniquement, c'est pas non plus.
Pourquoi
parfait à ce niveau-là.
Snyder.
Ouais, c'est vrai.
Pourquoi Snyder pour ce film. Bon.
Mais
sinon, la bonne annonce est plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt impatient de voir le film. J'essaie de garder mes attentes. Pas trop haute, mais on passe directement à une autre news qui concerne Batman vs Superman, qui est un peu plus intéressante, parce que le studio Warner Bros nous a annoncé que après avoir montré le film Batman vs Superman à un petit groupe de personnes, ces personnes-là étaient sorties de la salle déçues. Et apparemment, de ce qu'on a pu en entendre, c'est que le public mainstream est habitué au film popcorn que Marvel produit et ne va pas bien répondre à l'histoire complexe, je mets bien des guillemets là, complexe, de Batman vs Superman, écrit par un scénariste oscarisé. Donc voilà, ça c'est.
Ah oui, mais alors là, pardon, mais voilà. Franchement, non mais Warner, ils sont mignons. Hein. Je pense quand même qu'on est capable de comprendre que Batman et Superman vont s'affronter et puis que finalement ils vont se rendre compte qu'ils ont un ennemi commun, donc il va falloir un peu se rallier. Qu'au milieu de tout ça va débarquer Wonder Woman, mais je pense qu'il faut quand même pas avoir fait la Sorbonne pour comprendre le film.
Exactement.
Donc pour moi c'est plus du.
Non mais c'est un peu se foutre de la gueule des gens. Hein.
C'est se foutre de la gueule des gens et c'est encore une fois un bon outil marketing pour dire on n'a pas fait un film si débile que ça avec que de l'action et tout parce que le scénario est trop complexe, il y en a qui n'ont pas compris. Non mais arrêtez de nous prendre pour des débiles. Franchement.
Puis là, c'est un
indécent quoi.
Puis bon, un scénario complexe, ça rend pas le film intelligent pour autant.
Exactement.
C'est ça. Non mais c'est ça. Un film très mal écrit, t'y comprends rien, c'est pas pour autant qu'il est bon. Hein. C'est pas pour autant que c'est intelligent. Il y a plein de films comme ça d'ailleurs. Hein.
Mm-hmm. Tu regardes Cloud Atlas, c'est pas hyper complexe à suivre. Mm. Ça suit plutôt bien. Et le film.
Mais non, mais Cloud Atlas, c'est ultra simple. C'est juste que c'est découpé en six époques.
C'est
limpide, hein, Cloud Atlas. Hein.
Il suffit de se concentrer un petit peu et ça va. Hein,
mais dans Cloud Atlas, il faudrait s'amuser à mettre chaque segment de la même époque bout à bout.
Ouais, voilà.
Et ça fait des moyens métrages tout à fait cohérents.
C'est comme Memento par exemple. Mm-hmm. Memento, c'est okay, monté à l'envers bien. Et tout, mais bon finalement ouais. C'est ça qui fait. Enfin c'est je prends ce truc là comme c'est du marketing.
Oui.
Je vois pas autrement.
Mais en même temps c'est du mauvais marketing j'ai l'impression.
Oui mais c'est comme les fameux par exemple Chris Pratt a pleuré devant le scénario des Gardiens de la Galaxie. On met un acteur qui pleure dans son scénario, forcément ça dit ah bah le film finalement il va être émouvant, il va être bien. Ouais. Bon pour moi c'est vraiment du marketing pur, il y a un peu un côté un peu tu sais une carotte, enfin un âne avec la carotte.
C'est pas une manière aussi un peu cachée de justifier si le film est mauvais et que des personnes.
Oui, parce que c'est peut-être que le film est mal écrit, c'est pour ça qu'il est fait.
Et justement, en fait, ils essayent de se cacher en disant ouais, bon, bah c'est la faute du public s'il a pas compris le film.
Si t'as pas aimé parce que t'as pas compris.
Retrouve être mauvais, justement.
T'as pas aimé parce que t'as pas compris. Même les studios vont s'y mettre.
Voilà. Oui, c'est ça.
Exactement. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette polémique, mais c'est, enfin moi je trouve ça vraiment con de la part de Warner de faire ce genre d'annonce juste un mois avant la sortie quoi.
Oui, puis ça peut rebuter les gens d'y aller, hein, ils perdront du fric et puis.
J'ai pas l'impression que ceux qui ont pas aimé Man of Steel, j'ai pas l'impression qu'ils soient hyper motivés.
Personnellement oui, je le suis, ouais. Mais parce qu'il y a Batman dedans, ça aurait été Man of Steel 2, j'y serais pas allé.
Ouais.
Voilà, on va passer ensuite à une autre franchise dont le tournage a juste commencé, a débuté, donc c'est le Star Wars épisode 8.
Racisme ! Pardon.
Qui a débuté, on a eu droit à un magnifique, je mets les guillemets aussi ici, ouais. Teaser.
Ah moi je mets pas les guillemets, j'ai trouvé ça vachement bien.
Ouais, c'est juste la même scène, sauf que...
Ouais, mais c'est une bonne manière d'annoncer le début du tournage. Ça reste assez sobre, finalement.
Donc, oui, sachant que, d'après ce que je peux entendre, ce serait le réalisateur du 8 qui aurait fait... Enfin, serait,
oui,
aurait fait la dernière scène.
Qui aurait fait la dernière scène.
C'est logique, de toute façon.
Bah oui, mais c'est pas mal, d'ailleurs.
Bah, ouais, c'est logique, parce que moi j'ai lu que, en fait... cette scène-là a été faite en une journée, je crois, pour garder les conditions météo. Parce qu'en fait, pour garder les conditions météo de la scène, donc c'est logique que ça soit lui.
On va juste dire que ceux qui n'ont pas vu encore le Star Wars épisode 7, ne regardez pas le teaser. Voilà, juste si vous voulez être surpris. Mais c'est juste une... Juste
pour vous annoncer. Et puis même pour parler de ce qui suit, il ne faut pas qu'ils nous écoutent non plus, il faut qu'ils sautent un petit peu.
Voilà, c'est ça, exactement.
Parce que...
Mais de toute façon, on va pas vraiment spoiler, on va pas spoiler Star Wars 7, juste dire qu'il y a, voilà, que le tournage a commencé, que ce sera Rian Johnson qui réalise, ça on le sait déjà, et qu'on le voit d'ailleurs sur le teaser qui dit « coupé, c'est génial », voilà, ils applaudissent tous. Voilà.
Même Luc.
Exactement.
Oh merde, pardon.
Putain.
Voilà. On avait dit de ne pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait aller plus loin pour ceux qui avaient voulu le film.
Oh le con. Oh putain.
Mais moi je l'avais dit, hein, de toute façon. Hein. C'est la loi du chaos.
Ah, exactement. justement, en parlant de la loi du chaos, oh là là, tu me fais vraiment une transition magnifique parce que on parle du nouveau casting.
Mais oui, c'est vrai.
Casting.
Alors là, c'était pas fait exprès. Tu vois, c'est la loi du chaos.
Ah, voilà,
et je me pars tout seul et je reste tout seul.
J'ai rien compris à ce que vous avez dit.
Non, mais laisse tomber, t'as pas les bonnes références.
Voilà. Ouais, justement, ouais. C'est ça, ouais.
Le casting a été annoncé, le nouveau casting, on retrouve plusieurs personnages, enfin quasiment tous les personnages de l'épisode 7. Je vais pas dire qui n'est pas là parce que sinon ça, voilà. Donc on retrouvera Benicio del Toro, on découvrira Benicio del Toro qui sera normalement un méchant, vous l'avez déjà annoncé dans un Parlons Cinéma précédent.
C'est le collectionneur des Gardiens de la Galaxie qui s'invite dans Star Wars en fait.
Exactement. Bon, il a d'autres grands rôles, hein. C'est pas... C'est
oui,
pas
non, mais le... ça se trouve, oui. C'est ça en fait, les deux univers sont liés, c'est ça leur fameuse union Marvel-Star Wars.
Non, imagine.
Je veux pas savoir, non, je veux pas ça. Ce serait horrible. On retrouve aussi Kelly Marie Tran, donc c'est une nouvelle actrice dont
on
n'a pas entendu
pas.
Encore parler, voilà. Et la
bienvenue à elle, hein.
Voilà. Et la grande news, c'est que Laura Dern, donc...
Ellie Sattler dans Jurassic Park.
Ouais, merci.
Ou alors une actrice qu'on a vue dans le merveilleux Blue Velvet de David Lynch.
Aussi, c'est vrai.
Exactement.
Voilà.
Dans Inland Empire, et voilà.
Ouais, donc c'est pour ça que je disais que tu me faisais une magnifique transition, parce que, voilà, on l'a vue dans Jurassic Park, et je pense que c'est une très bonne nouvelle, parce que, enfin, ça fait assez longtemps...
On la voit pas assez, de toute façon.
Voilà, c'est ça.
C'est une super actrice.
Et c'est une excellente actrice. Ouais.
C'est la fille de Bruce Dern.
Oui, exactement.
Ah ouais.
Voilà. Oui. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux acteurs? Bon,
ah bah moi, Laura Dern, j'ai fait la danse de la joie autour de mon bureau, hein. J'étais content.
Il en faut peu.
Mais ouais. J'étais vraiment super content parce que peu importe qu'elle fera, enfin moi je suis content de la voir là parce que c'est bien quoi qu'elle revienne vraiment sur le devant de la scène. Alors, ouais. À mon avis, elle aura pas un rôle immense non plus, mais...
Ouais.
Alors j'espère qu'il la prenne pas pour faire jouer une alien, hein, ou un truc comme ça.
Voilà, c'est ça, j'ai peur que ce soit comme Lupita Nyong'o, moi.
Mais je pense pas, à mon avis, non. Moi, je
elle est là pour jouer un Stormtrooper.
Arrête, ouais, alors comme Gwendoline Christie, ouais, ouais. Bah, Captain Phasma, ouais, bah oui, Gwendoline Christie, en armure. Bon, ouais. Bah, en même temps, elle était prédisposée avec Game of Thrones.
Mais... Oui, mais d'ailleurs, c'était un peu la démarche des studios de pas faire un personnage, même si au niveau de la voix, on savait que c'était une femme, mais physiquement, il fallait pas lui donner une identité sexuelle. C'était une démarche.
Mmh. Ouais, oui. Ouais. Mais bon, la voir faire tous les tapis rouges et tout, alors que tu vois pas son visage du tout dans le film, c'est un peu du foutage de gueule.
Elle aurait dû faire comme les Daft Punk, se pointer avec son casque, tu sais.
C'est ça, ouais. Et donc,
ouais, mais, j'ai peur,
mais hein. Moi, Laura Dern, je la vois, c'est con, mais ouais, je la vois bien la voit. Dans le rôle de la mère de Rey.
Mm-hmm. Ouais, pourquoi pas.
Ah non, pour moi, c'est Felicity Jones, la mère de Rey.
Mais c'est ce que Quentin disait aussi. Et ce qui serait très bien, mais.
De toute façon, on a 2 ans pour.
Ouais, c'est vrai, on a.
Ou alors, ce sont. En fait, elles sont lesbiennes et ce sont eux les deux mères. Elles les deux mères. Parce qu'ils veulent une histoire gay dans Star Wars. En plus, nouvelle info. Ah, je suis content, la transition.
Ouais, il fallait prendre Julianne Moore et Ellen Page.
Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai.
Exactement.
Ou Kate Blanchett et Rooney Mara. C'est elles les actrices qui font des couples homo à la mode en ce moment.
Oui, c'est vrai. Bon, la mode, fais gaffe.
Quoi ?
Homophobie ordinaire.
C'est contre nature, évidemment. Attends. Non, évidemment, c'est de l'humour, hein. C'est, c'est de l'humour, hein.
Non, ne nous attaquez pas en justice.
Aimez-vous, faites des enfants.
Voilà. Donc voilà, le tournage de Star Wars 8 a débuté et on a un casting qui est plutôt bon. Enfin, moi je suis impatient de voir ce que ça va donner.
Benicio del Toro aussi.
Ça me botte bien. Il y a juste le réalisateur qui me botte un peu moins, mais bon,
en
même
Johnson,
temps, voilà,
on verra bien.
Je lui laisse le bénéfice du doute. Voilà. J'ai pas aimé Looper, mais bon, il peut quand même peut-être faire autre chose.
C'est juste un film quoi, donc c'est pas.
C'est ça.
On attend de voir ça et on va passer ensuite à justement une première réalisation, donc Jessica Chastain qui serait dans le film, une première réalisation d'Aaron Sorkin, qui a récemment écrit le scénario de Steve Jobs et qui avait qui a écrit le magnifique scénario aussi de Social Network.
Et qui a écrit aussi Le Stratège.
Le stratège, qui écrit aussi des épisodes pour Newsroom, qui à la Maison Blanche aussi. Enfin voilà, il fait des séries et des films de très bonne qualité.
C'est pas n'importe qui.
Voilà. Et donc ce serait sa première réalisation pour l'adaptation des mémoires de Molly Bloom. Donc c'est une ancienne skieuse et organisatrice de tournois de poker clandestins à Hollywood. Donc, comme ça paraît complètement...
Ah ouais.
Ouais, mais apparemment, on retrouvait à sa table de poker, donc la vraie Molly, on retrouvait à sa table de poker Ben Affleck, Leonardo DiCaprio ou Tobey Maguire. Donc c'était quand même quelqu'un de connu qui fut arrêté par le FBI en avril 2013.
Dédicace
donc,
à Stéphane pour Tobey Maguire, comme il l'appelle.
Mais de toute façon,
quoi que fasse Jessica Chastain, c'est bon.
Et en plus,
c'est pas compliqué. Voilà, en plus, oui, donc là, ça peut être que bon. Jessica Chastain est merveilleuse dans tout ce qu'elle fait.
Après, un bon scénariste, ça fait pas forcément un bon réalisateur. Donc,
oui, mais il y a une bonne actrice.
Oui, d'accord. Mais ça fait pas non plus tout le film.
Ça fait pas tout, mais avec Jessica, ça fait beaucoup de choses.
Oui. Ça peut changer la donne, on va dire. Jessica, j'ai revu récemment Zero Dark Thirty, qui est une merveille. Mais une merveille. Mais cette actrice est fabuleuse, quoi. N'aime pas Zero Dark Thirty.
Si, j'aime bien, mais ce que je reproche à Zero Dark Thirty, c'est qu'il y a un trop plein d'informations. Au bout d'un moment, ça en devient indigeste. Mais par contre, elle est très bien dedans.
Ah oui. Assez. Jennifer Lawrence qui a volé l'Oscar. Hein. Je suis désolé, mais alors là, mais l'Oscar, c'était pour elle.
Happiness Therapy.
En plus, le film est mauvais. Non, le film n'est pas mauvais.
Non, il est pas mauvais.
Si, si, si.
Je suis pas d'accord.
Mon avis, on s'en fout, quoi, en fait.
Oui. Je suis d'accord avec moi-même. Il est mauvais.
Voilà, donc.
Moi et ma conscience, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Écoute.
Ce sera pour l'année 2016 et on verra bien ce que ça va donner. Et en parallèle, en plus, Chastain vient de créer une nouvelle société de production où elle va produire deux nouveaux films. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est assez. Enfin. Ça devient de plus en plus fréquent des acteurs qui.
Mais là, de toute façon, elle a des projets plein les tiroirs. Parce que là, elle va être dans le prochain film de Xavier Dolan.
Exactement.
Et elle fait aussi un film sur. Elle va jouer la femme d'un gardien de zoo polonais dans un film sur la Shoah, je crois.
D'accord, ok.
Ouais.
Donc, oui, elle a pas mal de projets.
Ouais, Facebook, elle poste plein de photos avec des lionceaux, plein de trucs. Et en fait, je pensais que c'était pour une série au départ. Et non, en fait, c'est un film.
On peut dire qu'elle a le choix.
Elle a le choix.
Elle a le choix.
Ouais, c'est. Ok.
C'était douteux, mais ça marche.
Ouais, ça fonctionne.
Pour une fois que ça marche, on va prendre un boulot.
Voilà. Donc, on va passer ensuite à une autre news qui concerne un film Mary Poppins.
Donc, de Mary Poppins.
La suite de Mary Poppins, justement.
Et non, pas la suite de Dans l'ombre de Marie, ça n'a rien à voir.
Non, ouais. ça n'a rien à voir. Le premier Mary Poppins se déroulait dans les années 1910, et cette nouvelle version se déroulera dans les années 30 et s'appuiera sur le second livre Mary Poppins Come Back.
Parce qu'il y a plusieurs livres.
Le titre.
Ouais, c'est un peu la
j'adore.
Mary Poppins Return.
la revanche.
T'avais le retour de la momie, maintenant t'as le retour de Mary Poppins. Le retour de la nounou.
Et donc Emily Blunt devrait être normalement l'interprète de Mary Poppins, et le réalisateur serait Rom Marshall, donc celui qui nous a pondu Into the Wood.
Le problème c'est pas Emily Blunt, hein. Franchement.
Le problème c'est Rom Marshall.
Voilà. Le problème c'est Rom Marshall. Hein. Faut ouais, dire les choses telles qu'elles sont. Enfin Morgan, on disait Emily Blunt tout à l'heure, mais c'est pas elle le problème dans le fond.
Bah non, c'est Rob Marshall.
Voilà.
Exactement. Into the Wood, c'est vraiment pas bon.
Ah bah Into the Wood, c'est pas bon. Nine, c'est pas bon. Pirates des Caraïbes, c'était raté. Enfin voilà, au bout d'un moment, il faut quand même se remettre en question.
Il y a que Chicago qui est génial.
Moi, j'ai pas vu, mais.
Pareil, j'ai pas vu encore, mais. Voilà. Donc, c'était. Est-ce que vous êtes quand même un peu curieux de voir une suite de Mary Poppins?
Moi, j'ai pas envie de voir une suite de Mary Poppins. Alors, je sais qu'il y a d'autres bouquins, c'est pas le problème. Mais moi, c'est que j'ai pas envie, quoi. Quand on fasse Dans l'ombre de Marie, ok, là, ça, c'était intéressant.
C'était intéressant, ouais.
Mais,
ouais.
Mais une suite à Mary Poppins, non. Parce que, voilà, il y a des films comme ça, assez intemporels, qui
doivent pas...
Après de voir Emily Blunt dans le rôle, pourquoi pas. Mais pour moi, Mary Poppins, ça reste Julie Andrews.
C'est ça, c'est compliqué de se détacher de l'image de Julie
Andrews. Ouais, non, c'est pas possible. C'est trop tard de faire une suite, c'est trop tard.
Ouais. Le film était sorti qu'en 64, je crois. J'ai cru voir 64.
Ouais, 64, je crois.
Donc oui, c'est sûr que c'est un peu bon. Après, on fait des suites de tout à n'importe quel moment. Donc,
non, voilà. On revient encore dans la démarche de Disney qui se renouvelle pas beaucoup, quoi. Alors ok, apparemment, Zootopie, c'est la preuve du contraire, mais...
Au niveau live, c'est pas très...
Quand on voit qu'ils ont fait une suite de Tron 20 ans après, je crois.
Ouais, mais qui était bien.
Mais bon, j'ai pas vu ni le 1 ni le 2, mais Mary Poppins, je vois pas... Enfin, même, je crois que le jeune public s'en fout de Mary Poppins.
Bah, le jeune public ne connaît plus Mary Poppins.
Oui, ils connaissent pas,
C'est clairement nous qui sommes visés, hein. Ceux qui regardaient encore les vieux films Disney, parce que déjà pour nous c'était des vieux films.
Oui, ah bah attention, le film va encore être
taillé. Et encore, Axel, toi je suis pas sûr.
C'est trop nostalgique.
C'est pas trop, c'est même pas ta génération.
Non,
encore,
c'est pas ma génération.
Morgan et moi, je pense que ça va encore à peu près, mais toi.
Ouais. Non, mais.
J'ai pas grandi avec Mary Poppins, je l'ai vu très tard, je l'ai vu à 15 ans. Moi,
Mary Poppins, j'en ai entendu parler parce que les Simpsons en parlaient. Donc,
voilà. Ah ouais. Ouais,
donc voilà, c'est. Mais oui, je suis curieux, je sais pas.
Je sais pas, je sens le truc.
Mais après,
voilà,
le réalisateur.
Avec que des décors fous. C'est...
Exactement.
Je suis quasiment persuadé qu'il y aura de toute façon pas du tout la même magie que pouvait avoir le premier. Parce que le premier, c'est ça aussi qui est bien. C'est pas seulement les chansons qui restent en tête et puis qui, pour le coup, paraissent niaises mais qui ont un vrai sens. C'est ce qui faisait le charme du premier, c'est que voilà, tu sens que c'est en studio, mais il y a un tel travail sur le détail, il y a plein de puis il y a une écriture, quoi, il y a une vraie écriture aussi dans ce film-là. Donc je sais pas, moi je le sens pas du tout ça, puis j'ai pas envie de voir ça. Plus simplement.
Voilà. S'il nous fait un truc musical à la Into the Wood où ça chante toutes les 20 secondes.
Non.
Oh, ça va être horrible.
Ouais, ça va être horrible. On va passer ensuite à une autre news qui concerne Ennio Morricone qui devrait retrouver notre cher Quentin Tarantino pour son prochain film, pour un de ses prochains films, parce qu'il en reste normalement deux à faire. Oui, il s'est fixé comme quoi il voulait faire 10 films dans sa carrière. Après, il devait arrêter.
Ouais. Ah bon ?
Donc là, c'est The Hateful Eight était le 8e. Vous pouvez écouter notre critique sur le dernier podcast Movie Nerd. On a tous les deux vraiment apprécié le film et surtout la musique d'Ennio Morricone que...
Moi, je ne l'ai pas vu encore.
Oui.
Qui
ne me sort pas de la tête et que j'écoute très, très souvent.
Moi aussi.
Donc là, Ennio Morricone, c'est Quentin Tarantino qui a plutôt demandé à Ennio Morricone s'il voulait bien bosser avec lui une nouvelle fois. Il a accepté et il voulait.
Bah, tu m'étonnes.
Bah, ouais.
Tu m'étonnes parce que ça y est, Ennio Morricone
là, il gagne tous les prix.
Ouais, pas tout jeune. Il gagne tous les prix et puis bon, maintenant Tarantino a tellement été associé à Morricone malgré que Morricone n'a jamais composé pour lui. Mais là, non, ça me semble évident, quoi. Ouais. Ça va être le tandem jusqu'à ce. Mais bon, pour le 10 films Tarantino, j'y crois pas un instant.
Ouais.
Il aime trop le cinéma pour s'arrêter à 10.
Pour s'arrêter à 10. Mais en fait, il a dit que c'est juste une quelque chose qui se fixait à lui-même.
Oui, voilà, au comme moins ça, 10, quoi.
Voilà, au moins 10, et puis après, on verra, il a dit. Donc, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, pour Ennio Morricone, il voulait juste... Enfin, pour le prochain film de Tarantino, il voudra juste être tenu au courant un peu avant...
Il a quel âge, Tarantino? Il est pas si vieux que ça. Il a une cinquantaine.
Mais bon, c'est sûr que... Enfin, il a dit qu'il ne veut pas être un vieux papy gâteux qui fait encore des films à 80 ans, donc...
Bon. Après, s'il les fait avec le talent qu'il a, bon...
Ah oui, parce que si dans ce cas, Scorsese et Eastwood... Enfin, bon, Eastwood, il en perd, mais bon...
Ouais, bon.
Oui, c'est, oui, Eastwood perd un peu, mais bon... Ça va, hein, je veux dire, il y en a à son âge qui ferait pire, je pense. Hein.
Oui. Donc voilà, il voudra composer un peu plus de musique que là, c'est, là. Il a composé à peu près 30 minutes de musique originale pour The Hateful Eight. Et là, il voudra composer beaucoup plus de musique. Il voudra être tenu au courant bien avant, parce que Tarantino l'a un peu prévenu un peu en retard par rapport à la deadline qu'il aurait dû avoir. Donc il n'a pas pu écrire autant de musique qu'il aurait voulu. Mais voilà, donc moi je dis c'est une très très bonne nouvelle. Tarantino fait encore des films, Ennio Morricone compose encore de la musique, donc voilà.
Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Voilà.
Bah oui, non mais je suis... Bon, pourquoi pas, après faut que la musique soit bien quoi. Parce que, Morricone n'a pas... Enfin, c'est pas que non plus des chefs-d'œuvre, il y a quand même des musiques de Morricone qui sont un peu faibles. D'ailleurs, dans Hateful Eight, la musique est très bien, mais j'ai retenu qu'un thème.
Oui, ça, mais le... parce que justement, il a composé qu'un seul thème.
Ah bon ?
Oui.
Il n'y avait pas d'autres musiques à côté ?
Je crois pas. Enfin, il a composé 30 minutes de musique et des...
C'est pas long, 30 minutes, hein, pour une minute de film.
Ouais, c'est vrai que... Ouais. Voilà. Non, mais pourquoi pas.
Ok. On passe ensuite à Kingsman 2, le sujet pour Morgane. normalement c'est Matthew Vaughn qui devrait réaliser, qui devrait scénariser aussi, comme pour le premier. Et ce qu'on a appris, c'est que Julianne Moore serait normalement la nouvelle méchante du film. Donc Morgane.
Bah forcément, là c'est bon. Julianne Moore, après Hunger Games, elle a envie de faire des trucs, elle a envie de jouer des méchantes. Ouais. Elle aime bien ça. Enfin, je spoil un peu. Hein, mais disons que Matthew Vaughn a le chic pour pouvoir cerner toute la classe et j'ai envie de dire presque la folie de ses comédiens. Dans Kingsman, on voyait vraiment un Colin Firth comme je l'avais jamais vu, c'est-à-dire énergique, combatif, avec une classe, tout ça. Samuel Jackson, c'est rare parce que les derniers rôles de Samuel Jackson n'étaient franchement pas terribles. Ils donnaient vraiment pas à fond et là il s'éclatait. Et Julianne Moore, c'est une actrice qui peut avoir un espèce de grain de folie absolument génial. Et sous la caméra de Matthew Vaughn, je pense que ça peut être assez énorme et j'ai envie de voir
D'autant plus que Julianne Moore s'est quand même illustrée dans plein de registres différents.
Ah ouais, là la voir dans le rôle d'une méchante,
c'est quand même une actrice qui est capable de passer du drame à la comédie rapidement quoi. Donc,
ouais. Là franchement
Tu dis oui. Donc le film est déjà annoncé pour le 16 juin 2017 aux États-Unis. Donc voilà.
On
sait qu'on n'aime pas trop le film. Enfin,
mais c'est pas voilà, que j'aime on... pas. Non, mais... enfin, c'est... Je vais pas revenir sur le débat, mais c'est pas que j'aime pas Kingsman.
Non, moi plus,
j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Je pense même que je le reverrai avec plaisir. J'ai vu qu'une fois.
C'est qui plaisir?
Je sais pas, c'est quelqu'un que je vois très souvent apparemment. Je sais pas. Mais non, ce que je reproche à Kingsman, c'est que ça va pas très loin quoi. Et à la limite, ce serait bien s'il fasse un 2 et puis qu'il se creuse un peu plus.
Oui, non, moi je suis toujours content de. Enfin,
qu'il creuse un peu plus sa ligne narrative quoi. Parce que, ok, c'est cool et tout, il y a de l'action, machin, il y a des super bonnes scènes, mais. C'est quand même pas des thématiques qui volent très haut, qui
plongent très loin.
Mais non,
mais là tu parles de Deadpool.
Donc c'est pas le film en lui-même, c'est vraiment la manière d'explorer fond quoi qui me je trouve pas
j'avais passé un bon moment devant Kingsman
mais je
comprenais pas non plus la hype autour du film. Voilà. Mais je suis toujours content de voir un Kingsman 2, en plus réalisé par Matthew Vaughn, il est très talentueux, et j'adore son kick-ass, enfin j'adore beaucoup de ses films, donc pourquoi pas, en plus s'il revient à la réalisation, et il y a Taron Egerton qui a été confirmé pour retourner,
bah oui,
de toute façon ça c'est un peu obligatoire, hein, je pense.
Taron.
Ouais. Voilà, ensuite on va passer à Lars von Trier, qui serait de retour au cinéma avec une histoire de serial killer. Le film serait devrait être appelé The House That Jack Built, donc la maison que Jack a construit, qui normalement était une série qui devait être une série en 8 parties, mais qui finalement sera un film comme Lars von Trier nous a annoncé ça sur Twitter dans une vidéo très très bizarre.
C'était vraiment bizarre.
Ouais, c'est
c'était drôle.
Oui, c'était drôle, mais en même temps, c'était un peu.
C'est du Lars von Trier, quoi.
Voilà,
c'est complètement. C'est ça. Voilà.
Complètement décalé.
C'était bonjour, au revoir, je fais un nouveau film. c'était drôle.
Et avec son. Je sais pas ce qu'il avait sur sa tête, mais voilà. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo.
Oui, mais il est tout seul dans sa tête, hein, de toute façon.
Oui, exactement. Donc voilà, un film sur un serial killer. Il nous annonce un film pas drôle. Voilà, donc c'est tout ce qu'il dit dans sa vidéo.
Et on peut pas dire qu'il ait fait beaucoup de films très drôles, hein, quand même.
Voilà, c'est ça. Donc,
oui, c'est vrai que.
Il dit que c'est sérieux, c'est une histoire
c'est
de sérieux.
C'est pas Billy Wilder, si. Enfin, c'est pas un génie comique, Lars von Trier.
Non, justement. Donc voilà, un nouveau film de Lars von Trier, je pense que ça nous intéresse tous.
Oui.
Voilà,
bah oui.
Morgane, tu veux peut-être commencer?
Ah non, je l'attends.
Tu l'attends, ouais. ça t'intrigue qui
ah bah oui,
c'est surtout... un serial killer.
Oui, voilà, et avec toute sa virtuosité esthétique, parce que mon Lars von Trier, c'est pas que la mise en scène, c'est aussi beaucoup d'esthétique. Et voilà, je suis curieux. Enfin, ce qu'il a fait avec La vie d'une nymphomane, ça a été passionnante. Et là, avec surtout qu'il va nous faire adopter, je suppose, le point de vue du serial killer. Ouais. Donc, je pense que ça peut être un film hyper intéressant.
Ça peut se rapprocher beaucoup de Nymphomaniac, parce que finalement, ça parle d'un personnage qui commet des actes et tout. Donc,
ouais. Mais qu'il y aura pas, enfin, sans jugement malgré tout, en fait.
Non, parce que de toute façon, il est pas vraiment dans le jugement, lui.
Non, il est vraiment
dans l'exposition. Après, il le fait plus ou moins bien, ça dépend des films, mais.
Ouais, voilà. Bon, moi je suis aussi content. J'ai... Pourtant, Lars von Trier, j'ai vu que Nymphomaniac, je sais, il faut absolument que je voie d'autres films, mais. Justement.
Il faut que j'essaie d'en voir d'autres, là. Ouais. Parce que j'ai vu que Mélancolia et.
Ouais, Mélancolia, il faut que je voie.
Nymphomaniac et Dancer in the Dark. Mm. Et. Faut que j'essaie de voir, j'aimerais bien voir Dogville, Manderley et tout ça, là.
Moi, c'est Breaking the Wave que j'ai envie de voir.
Breaking
mais
the Wave aussi.
Ouais. Ok. Oui, bon, moi je suis aussi assez content qu'il retourne au cinéma. Et on verra bien ce qui nous réserve dans ce film. Pour l'instant, il n'y a aucune date de sortie. Enfin, le tournage commencera à l'automne 2016, en tout cas, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. On passe ensuite, on retourne vers Star Wars, mais cette fois vers l'épisode 9. Colin Trevorrow, donc le réalisateur de Jurassic World. a annoncé qu'il voudrait tourner quelques scènes dans l'espace.
Pense que Lars von Trier, il lui a refilé de sa drogue.
Exactement. Non.
Et donc, ça confirme que c'est vraiment de la bonne. Hein.
Ah oui, là oui. Il voit des étoiles.
Donc, il a demandé à Disney, qui avait déjà envoyé des caméras IMAX pour tourner un documentaire sur l'espace, dans l'espace,
c'est
justement.
C'est pour Disney Nature, je pense, ça.
Oui, je pense. Et que apparemment ce serait possible, mais bon, on n'a pas la réponse. Voilà. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire ça?
Bah, en soi, c'est pas une mauvaise idée, parce que ça peut rendre des trucs assez dingues, mais où est l'intérêt, quoi?
Oui, parce que
pour un film qui s'appelle Star Wars, tu peux pas aller tourner ça dans une prairie en Normandie.
Mais bien sûr, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça apportera vraiment quelque chose au film?
Enfin, ouais,
t'as déjà suffisamment de plans qui se passent dans l'espace avec
Exactement.
Star Wars. Déjà les plans qui vont aussi, si jamais il y a des vrais plans qui se font dans l'espace, on va pas forcément les repérer, parce que qu'est-ce qu'il va filmer? Il va filmer quoi? Des étoiles? Il va pas filmer des vaisseaux spatiaux, donc bon, c'est...
Non, il va faire les vaisseaux spatiaux, il va les faire.
Donc bon, c'est vraiment, ça c'est pareil, ça fait très marketing, quoi. On va aller voir ce film parce qu'il y a des scènes qui ont été tournées dans l'espace.
Bah... Et puis on peut faire un film qui se passe dans l'espace en studio et que ce soit d'un rendu technique absolument d'un réalisme incroyable, hein, je vais cité Gravity. Donc voilà, donc au bout d'un moment, le cinéma, c'est aussi faire marcher son imaginaire. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller tourner dans les décors naturels pour nous faire croire que.
Mais c'est ça, parce que la force de Gravity, en plus, c'était vraiment. Enfin, c'était à tel point que, bon, pas qu'on se posait la question, parce qu'on savait que ça n'avait pas été fait dans l'espace, mais on y croyait vraiment. Mmh.
Ouais. Mais moi, Gravity, pour moi, quand je le vois, enfin, je sais que je suis pas débile non plus à ce moment-là.
Non, mais oui, quand t'as, je vois Gravity, t'as l'impression d'être dans l'espace. L'immersion fonctionne complètement.
Ouais. L'immersion, oui, enfin, surtout même techniquement, bon, au cinéma, ça rend mieux que chez toi, mais c'est vrai que pour moi, Gravity, je le vois, je me dis, ce film a été fait dans l'espace. Mmh. C'est vrai ce que je vois, et c'est ça le cinéma, la force du cinéma, c'est de nous faire que notre imaginaire nous fasse croire à des choses qui, voilà, on n'a pas besoin de. Enfin, voilà,
et puis l'espace de Star Wars, c'est pas notre espace à nous, quoi.
Justement, c'est ce que je disais.
Non, puis on le connaît pas.
C'est ça qui est...
Il va devoir effacer la Lune, la Terre, le Soleil et les autres planètes.
je pense qu'il va demander, à Disney de désintégrer le Soleil.
Ah, ils ont le pouvoir. Hein.
Il y a trop de lumière pour le faire péter. La lumière est pas bonne.
Disney va construire une station spatiale dans l'espace, une deuxième lune.
Non mais c'est pas vrai. Au moins il a de l'ambition.
Non mais
oui.
Je suis partagé sur ça parce que en même temps c'est un défi technique qui pourrait être intéressant à relever. Mais en même temps je vois pas l'intérêt pour Star Wars.
C'est que ça fait ça fait très prétexte quoi.
Mais par contre ce qui est intéressant c'est que les trois films donc Star Wars le 7, 8 et 9 seront tournés en 35 mm, donc ça c'est une bonne nouvelle. Personnellement moi je préfère quand c'est tourné sur film, mais par contre les spin-offs sont tournés sur numérique et je pense que ça se verra. Mais voilà, le fait de tourner sur pellicule et d'envoyer, enfin bon après c'est filmé sur IMAX donc s'ils veulent envoyer dans l'espace, donc il y aura peut-être une différence de qualité par rapport par rapport aux deux images, on verra bien, mais ça sert pas à grand chose pour Star Wars en tout cas. Après,
et d'ailleurs, pour Star Wars, j'ai une petite info là, donc, qui est tombée il y a 2-3 jours. Mm-hmm. Apparemment, pour jouer un solo jeune, ce serait Taron Egerton.
Ouais, j'ai vu ça.
Apparemment, ce serait lui. Hein. Mm-hmm.
Voilà. Pour un spin-off sur la vie.
Han Solo.
Sur Han Solo jeune, voilà.
Voilà. Ah, alors là, c'est Taron, ok.
On verra bien.
Je paye mon ticket, je vais dans l'espace avec, il n'y a aucun problème. Non. Mais bon, l'idée d'un spin-off sur Han Solo, je m'en fous. Ouais. Mais bon, Taron, pourquoi pas.
Ok, voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On va passer ensuite à la dernière news, la bande-annonce de Midnight Special. Donc, le nouveau film de Jeff Nichols, c'est un film de science-fiction qui se rapproche un peu des films de science-fiction à la
et
bonne époque.
Qui paraît-il est très bon en plus.
Steven Spielberg. En plus, on a eu de très bons retours sur Twitter, etc. Donc,
il y en a qui n'ont pas aimé.
Ouais, mais enfin, le projet m'intéresse en tout cas parce que ça a l'air d'être assez, même si c'est pas très novateur, mais c'est un truc original déjà. Et on voit pas assez souvent, donc moi je suis assez curieux de voir un film de science-fiction original au cinéma. Et puis Jeff Nichols, bon, j'ai pas vu ses autres films, Mud et tout ça, mais.
Moi je les ai vus.
Ouais. Excellent.
C'est très
excellent.
Bon, c'est bien.
Ouais. Je sais qu'Eddie n'aime pas trop.
Et moi j'ai un problème avec son style en fait, donc.
Ouais, je crois, une fois que t'avais dit, c'est juste que ces films m'emmerdent.
Mais
je crois
c'est
que t'avais
ça,
dit un truc
ça, en fait, je trouve ça pas mal. Bon, non, Tech Shelter, je m'étais vraiment fait chier, j'ai pas trouvé ça intéressant. Mais par contre, Mud avait vraiment quelque chose et j'ai pas été emporté, quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas mal.
Mais
après, il y a des styles auxquels t'es pas réceptif, hein, c'est tout.
Et sinon, pour ce nouveau film, ce que vous avez vu, ça vous intéresse?
Oui, moi, oui. Franchement, oui. Dans la thématique. En plus, j'ai lu un tweet qui était vachement fort, enfin, je trouve, pour vendre le film. On a trouvé enfin un film de SF majeur. Comme Spielberg avec Rencontre du troisième type. Vraiment, un film limite qui marquerait le cinéma.
D'accord.
Donc, je suis plutôt curieux. Déjà, la bande-annonce est magnifique, déjà. Il y a Michael Shannon en plus dedans.
Oui.
Comme toujours,
on retrouve Kristen Dunst, Adam Driver aussi.
Ah bah tiens. Donc il est là lui.
Ouais.
le casting déjà est top et puis Jeff Nichols, j'aime beaucoup son cinéma qui est un peu particulier, c'est vrai. Tech Shelter, je l'ai adoré. Mud, j'ai dû le voir quand même deux fois. J'avais adoré Mud au cinéma et puis en fait quelques mois après je me suis dit mais en fait le film est sorti de la tête, j'ai l'impression que je l'ai aimé, puis en fait pas du tout, enfin voilà, Je l'ai revu et non, finalement, c'est vachement bien. Je sais pas, je suis épaté par en fait son cinéma et il est comment dire, il est de ah, il est touché par la pureté. Mmh. Vraiment, son cinéma est très pur et c'est ça qui me plaît au final. Et ses choix de casting sont en général plutôt bons et il leur donne vraiment des choses à jouer. Et là, le propos a l'air assez intéressant et j'ai hâte de voir ça.
Ok, d'accord. Eddie.
Bah pourquoi pas.
Ça t'intéresse, ouais. Les images que t'as vues.
Oui, mais comme d'habitude, ouais. Quoi.
Oui, d'accord. Okay.
Ça a l'air très beau, mais est-ce que ça va me plaire, je sais pas. Ouais. Je vois le film. Mais d'accord, je le verrai par curiosité.
Oui, oui, oui.
C'est bien, je lui laisse sa chance. Peut-être qu'il va finir par trouver le truc qui me... Voilà.
Bah oui, pourquoi pas. Enfin, moi, personnellement, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Le film sort le 16 mars 2016, donc c'est dans pas longtemps. Et on verra bien. Quand... On en parlera sûrement. Voilà, donc on a fini ce Parlons Cinéma épisode 10. Merci d'avoir participé, à vous deux. C'est toujours un
plaisir. Mais de rien.
D'avoir vos avis éclairés parce que.
Oui.
merci à vous d'avoir écouté. Vous pouvez retrouver toutes les critiques, les émissions sur moviesnerd.net, sur Facebook et sur Twitter, c'est aussi moviesnerd. Je le dis plus depuis un moment, j'avais complètement oublié, mais si vous voulez participer à Parlons Cinéma, vous pouvez en envoyant un mail à contact@moviesnerd.net, pardon.
Même sur la page Facebook.
Sur la page Facebook,
si c'est plus
sur
facile
Twitter,
pour vous, n'hésitez pas.
Si c'est plus facile, n'hésitez pas. On en parlera pour voir si c'est possible, de quel sujet vous intéresse. C'est quelque chose que je disais plus du tout et j'avais complètement oublié.
D'ailleurs, le centième j'aime sur la page Facebook, il peut nous imposer un film à voir qu'on critiquera parce que, bah, après tout, ça peut être sympa.
Ouais, mais je sais pas qui c'est.
Est-ce que ça y est, là, il y a le centième?
Oui, le centième est arrivé, là, récemment. Mais,
c'est quoi son prénom?
Bah, si la centième personne sait qui est...
Manifestez-vous.
Voilà, c'est ça. Voilà. Si vous êtes la centième personne, manifestez-vous et vous pourrez nous imposer un film à voir et on critiquera dans le prochain Movie Nerd. Tu auras déjà un programme assez chargé, je vous préviens.
Okay, oui.
On va en parler juste après. Mais voilà. On finit cette émission, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Donc moi c'est sur Twitter et Sens Critique, ainsi que Movie Nerd, TheLexal, THELEXAL, pour Eddie.
Comme d'habitude, Sens Critique, Movie Nerd, Facebook, Twitter, alors bon Twitter j'y suis jamais, mais si vous voulez, et c'est Stark partout.
Ok, et Morgan?
Morgan, c'est sur quoi? Sur Twitter, effectivement. Désolé, je lisais un truc.
C'est pas bon.
Sur Twitter, justement. Donc c'est @CinéMorgan, Morgan Cinémaniac, voilà, vous me trouverez.
Okay.
Et sur votre caster, Cinémaniac.
Ouais, ok. Donc voilà, merci encore d'avoir écouté, et on se dit au mois prochain pour un prochain Parlons Cinéma. Salut.
Salut.
Salut.